Empezamos esta sesión de la tarde con el final de la parte dedicada a la historia, con la intervención del profesor Ludwig Fones, que es profesor en el departamento de, en el Instituto de Historia de la Universidad de Colonia. Publicó, entre otros libros y trabajos, una monografía en el año 80 sobre la historia compostelana y la historia eclesiástica del espacio noroccidental entre 1070 y 1130. Es autor también de un manual de historia de la península ibérica en la Edad Media, 711-1480, Reinos, coronas, regiones, publicado en el año 93, y también de una monografía sobre el Papa Urbano V, Reforma eclesiástica entre el colegio cardenalicio, la cura y la clientela. Además de autor de muchas voces del léxico de Mittelalters y a su vez presente también, asistente asiduo a congresos internacionales. Por lo tanto, es una persona adecuada para abordar este tema de Diego Selmírez y las corrientes de la política eclesiástica de su tiempo. Profesor Fones tiene la palabra.
Merci. Je parle en français. Je m'excuse de ne pas parler en espagnol. L'Historia Compostelana, ce témoignage singulier des exploits juridiques de l'Église apostolique de Saint-Jacques de Compostelle et des actes de son évêque Diego Selmírez, l'évêque le plus important qu'elle a eu dans cette période de transformation fondamentale concernant la réforme et la structure de l'Église, ne laisse dès le début pas de doute qu'il était déjà assez tôt mêlé à la politique ecclésiastique de l'espace galicien auquel il appartenait de par ses origines et son éducation. D'abord simple chanoine du siège épiscopal d'Iria Compostelle, puis chancelier, secrétaire, notaire et scribe du comte Raymond de Galice, ensuite administrateur des biens du diocèse pendant deux vacances du siège, puis évêque et enfin archevêque. Diego Selmírez avait dirigé d'une façon décisive le destin de l'Église hispanique. Il n'aspira qu'à assurer l'existence et l'indépendance de son évêché et, en dernière conséquence, à faire élever l'Église de Saint-Jacques au rang de métropole, pour qu'elle obtienne, comme chef d'une province ecclésiastique, une position au moins équivalente à celle du siège primatial de Tolède dans la péninsule ibérique. Après la reconquête et le ralliement définitif à Rome et la papauté romaine, après l'adoption du rite romain et l'abolition des structures wisigothiques et hispaniques, l'Église hispanique devait se reconstruire. Dans bien de régions, d'ailleurs, il était impossible de renouer les liens établis au temps de l'Antiquité tardive ou des Wisigoths. Les anciennes structures ecclésiastiques avaient en grande partie disparu et ne correspondaient plus à la réalité politique de l'espace nord-ouest de l'Espagne. C'était aussi le cas de l'église de Compostelle, qui n'avait pas été le siège d'un évêché et n'avait réussi à obtenir son rang prééminent que grâce à la découverte du tombeau de Saint-Jacques en 800. À l'origine de siège de l'évêché se trouvait à Iria, qui était dans suffragant de la province ecclésiastique de Braga. Mais en 1095, l'évêque d'Almas, le prédécesseur immédiat de Diego, obtint la translation de l'évêché d'Iria à Compostelle en citant explicitement la découverte du tombeau de Saint-Jacques à l'appui. Il parvint à se faire accorder l'exemption de l'église de Saint-Jacques de tout autre pouvoir métropolitain que celui de l'Église romaine et obtint la confirmation de tous les privilèges royaux jamais reçus par Compostelle, y compris les titres de Liliensis Cathedra. Le privilège issu par le pape Urbain II au début du mois de décembre 1095 à Brioude pour garantir la Libertas Compostellanae Ecclesiae a été transcrit dans l'Historia Compostellana, le registrum à valeur juridique de l'Église de Saint-Jacques, en tête de nombreux privilèges pontificaux qu'on y trouve. Il forme la base juridique de toute future promotion de l'Église de Saint-Jacques et résume, comme l'a déjà constaté López Alsina, les privilèges royaux en faveur de Compostelle, rendant aussi superflu d'énumérer chaque fois tous les privilèges reçus auparavant. L'artisan officiel de ce succès n'était pas Diego Gelmírez, mais l'évêque d'Almas, qui, dans une situation de crise provoquée par la déposition de l'évêque Diego Peláez et du candidat royal Pedro de Cardenia au Concile de Léon en 1090, fut unanimement approuvé par les autorités ecclésiastiques et politiques et confirmé par le pape au Concile de Clermont. Mais Diego, comme administrateur de l'église de Saint-Jacques, connaissait mieux que personne ses titres de droit et pouvait mieux juger de la situation politique devenue plus difficile, puisque depuis les tentatives de restaurer la province ecclésiastique de Braga, l'évêché d'Iria Compostelle risquait de nouveau d'être soumis à son ancienne métropole. L'évêque d'Almas avait été moine à Cluny et lors de son installation à Compostelle, l'abbé Hugues de Cluny, comme chef de sa congrégation, lui avait donné sa benedictio et licentia. Quand il demanda donc l'exemption de son siège, quod nemo predecessorum suorum impetrare potuarat, il pouvait compter sur le soutien du duc de Cluny, qui était aussi présent à Brioude. Diego Gelmírez, en tant qu'administrateur des biens de l'évêché, était probablement le principal responsable, sinon instigateur, des revendications de l'église de Compostelle. Qui d'autre aurait pu le faire? Mais cela signifie aussi qu'il entretint des contacts réguliers avec Cluny, ce qui paraît assez probable. Dans ses recherches sur Cluny, Julian Bischko a constaté que des monastères portugais et galiciens, en nombre impressionnant, ont été donnés à Cluny. Très souvent, avec le concours de Diego Gelmírez, qu'il caractérise comme « notorious cluniophile ». L'Historia Compostellana avait déjà désigné Cluny comme « caput totius monasticae religionis » et constaté que l'évêque de Compostelle, lors de son voyage à Rome, avait été reçu à Cluny comme « familiarius ac specialius ». Il ne faut certainement pas sous-estimer l'influence de la puissante congrégation bourguignonne et de son abbé Hugues. Depuis longtemps, déjà les rois de Castille et de Léon avaient demandé que des prières en leur mémoire soient dites à Cluny. Dès le temps de Ferdinand Ier et surtout d'Alphonse VI, ils avaient étroitement collaboré avec Cluny et l'avait favorisé par des donations de monastères et l'affectation des sièges épiscopaux. Le clunisien Bernard de Sédirac, en homme de confiance de l'abbé Hugues, en avait profité le plus. D'abord nommé abbé de Sahagun, du monastère royal le plus important de Léon, il monta après sur le siège métropolitain de Tolède. C'est le pape Urbain II, ancien clunisien, lui aussi, qui lui conféra la dignité de primat de l'Église hispanique et le chargea de l'administration de tous les sièges épiscopaux, pas encore restaurés depuis l'invasion des Maures. Le roi de Castille avait par ailleurs épousé Constance de Bourgogne, une nièce de l'abbé Hugues. Et il donna deux de ses filles, les enfants de Thérèse et Uraca, à des parents de Hugues. Thérèse devait épouser Henri de la maison des ducs de Bourgogne, qui deviendra comte du Portugal, et Uraca se marier avec Raymond de la maison des comtes de Bourgogne, qui sera comte de Galice. La cour de Castille-Léon était le centre vers lequel convergeaient ses relations avec Cluny et la Bourgogne, pour y former un réseau étroitement connecté dont on ne connaît pas encore toutes les composantes. Mais ce qui est sûr, c'est ce que Diego Salmires, grâce à sa formation à la cour d'Alphonse VI et de Raymond de Galice, fit partie du réseau. Par lui, ce réseau fut relié en ligne directe avec d'autres foyers où il avait été formé. L'école de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle et la maison de l'évêque Diego Peláez. Ce dernier, en protégé du roi Sanche II de Castille, tomba en disgrâce après la mort violente du roi et fut déposé au concile de Roussillos en 1088. Son successeur, Pedro de Cardenia, ne put pas prendre possession de son diocèse, puis Urbain II annula presque toutes les décisions de ce concile. Que Diego ne fut pas entraîné dans la chute de Diego Peláez, mais put même en profiter, est une preuve de l'implantation solide de sa position en ce moment précoce de sa carrière. Il devint même administrateur du siège épiscopal pendant la vacance, ce qui lui permit d'influencer plus particulièrement le sort de l'église de Saint-Jacques dans ces temps difficiles. L'Historia Compostelana rapporte que l'élection unanime de Dalmas de Compostelle, Monachus Cluniacensis Religionis, n'était pas seulement due à l'autorité de l'église romaine et en conseil du clergé et du peuple, mais surtout à l'instigation du roi Alphonse VI, de son gendre Raymond de Galice et de sa fille Uraca, donc au réseau bourguignon de la cour royale. Le pontificat de Dalmas de Compostelle ne fut pas de longue durée, et après sa mort précoce, la situation s'envenima dans cet évêché exempt, où le droit à la consécration de l'évêque revenait maintenant à la cour pontificale. Diego Peláez, entre-temps remis en liberté, pensa le temps venu pour se rendre à Rome pour faire valoir ses droits à l'évêché de Compostelle devant un pape qui, par l'annulation des décisions du concile de Roussillos, n'avait pourtant pas abrogé les normes de droit canonique dont Diego Peláez se réclamait. Puis qu'Alphonse VI n'était absolument pas prêt à le rétablir comme évêque de Compostelle, on se retrouva de nouveau en face d'une situation de pas qui devait durer 4 ans. Car le pape aussi ne voulait pas revenir sur sa décision de permettre à Diego Peláez d'exercer l'officium épiscopal si, dans le cas d'une sedis vacance, on faisait appel à lui. En fin de compte, il préféra laisser l'évêché vacant. Diego Helmires fut donc une seconde fois chargé de l'administration du diocèse, mais cette fois, il prépara sa propre candidature. Tandis qu'une ambassade du roi Alphonse VI se trouva à Rome pour régler la question du siège de Compostelle, Urbain II décéda et Renier de Saint-Clemente lui succéda sous le nom de Pascal II. C'était le même cardinal qui, au cours d'une légation en Espagne, avait déposé Pedro de Cardenia. Sa légation lui avait permis de se familiariser avec la problématique en question. Il fit sien le point de vue du roi et ordonna à l'église de Compostelle d'élire un nouvel évêque. En même temps, il demanda au roi de doter l'ex-épiscopus avec un honneur digne de sa condition. Pour Diego Peláez, qui n'avait d'abord cherché l'appui du roi d'Aragon, cela signifia en dernière instance de passer le reste de sa vie en exil. Compte tenu de la situation à Compostelle et de la répartition du pouvoir au sein de l'Église, Diego Gelmírez, fort du soutien du roi Alphonse et du comte Raymond de Galice, était le seul à pouvoir se présenter comme candidat. Mais Diego n'était pas là. Il s'était rendu à Rome, orationis causa, comme il prétendait, et venait d'être consacré sous-diacre. Il est plus que probable qu'il existe un rapport direct entre la décision prise par Pascal II dans le cas de Diego Peláez, le 29 décembre 1099, la consécration de Diego le 18 mars suivant et la présence de l'ambassade d'Alphonse VI à Rome. Autant plus que Diego, comme l'administrateur du diocèse et homme de confiance du roi, était directement concerné. Que penser alors de l'assertion de l'Historia Compostelana que l'élection du nouveau évêque avait eu lieu eum nolenten atque renitentem. Même si l'on peut considérer cela comme un topique, le récit de l'élection de Diego Gelmírez, avec le concours de toute la noblesse de Galice, du roi Alphonse VI et du comte Raymond, tous les deux venus expressément pour y assister, ne correspond certainement pas à la réalité. N'est-il pas rapporté un peu plus loin dans l'Historia Compostelana que Diego avait peur d'embuscades tendues probablement par des nobles qui lui étaient hostiles et des parents de Diego Peláez? En raison de ces menaces, l'élu ne pouvait se rendre à Rome, où la consécration était censée avoir lieu de la main du pape, comme prévu par le privilège d'exemption. Il fallait qu'il demande au pape qu'elle soit faite à Potnos. Le pape acquiesça à sa demande et lui notifia que la consécration devait être conférée soit par l'évêque Joafroy de Maguelone, qui lui était aussi immédiatement soumis au Saint-Siège, soit, si celui était empêché de venir, par l'évêque de Burgos, qui nostri iuris est. L'installation de l'évêque de Compostelle, comme résultat de la situation politique et ecclésiastique dans le nord-ouest de l'Espagne, indique assez clairement l'existence d'une alliance entre Diego Gelmírez et le pouvoir royal et comtal en place, favorable à Cluny et à la Bourgogne. Le fait que le nouvel évêque se rendit immédiatement après son élection à Tolède pour une première visite chez le roi et l'archevêque Bernard va dans la même direction. Mais bientôt, on devait constater que les objectifs de l'évêque de Saint-Jacques étaient bien plus différenciés et pas toujours compatibles avec ceux des autres. Maintenant que le plus grave danger était passé, l'exception interdisant désormais l'intégration du diocèse dans une autre province ecclésiastique, il devient clair que le rang de l'Église de Saint-Jacques, qui ne pouvait point se prévaloir d'une longue tradition, ne correspondait plus à l'image qu'elle se faisait d'elle-même. Cette image était depuis le IXe siècle fondée sur l'apostolicité du siège et sur le culte qui s'était développé autour du tombeau de l'apôtre et des reliques de Saint-Jacques. Bien que le siège primatial de Tolède ait son droit à l'exercice d'une légation apostolique permanente, garda toujours un rang supérieur, le danger de faire obstacle à de possibles projets d'expansion de l'église de Saint-Jacques venait surtout du siège métropolitain de Braga, qui revendiquait toujours la juridiction sur l'ancienne province ecclésiastique de la Galice et des suffragants. Au temps de Grégoire VII, l'évêque Pierre de Braga avait malencontreusement demandé la confirmation de l'élévation de son église au statut d'église métropolitaine à l'antipape impérial Clément III et avait été ensuite déposé comme schismatique. En 1095, le Clunisien Gérald, ancien moine de Moissac, avait été installé archevêque à Braga au même temps que l'évêché de Compostelle, déclaré exempt, avait été soustrait à sa juridiction. Si l'on veut accorder foi au récit de l'Historia Compostelana, Dalmas de Compostelle aurait, lors de la confirmation de sa dignité épiscopale par le Concile de Clermont, tenté d'obtenir d'Urbain II l'imposition du pallium, normalement réservé aux patriarches et aux archevêques. Il le fit pour asseoir plus fermement sa juridiction, mais avait subi un échec, le pape n'étant pas prêt à porter préjudice à quiconque. Au cours de son deuxième voyage en France, Diego Gelmírez, appuyé par l'abbé de Cluny, verra ses efforts couronnés de succès et obtiendra le pallium des mains de Pascal II. Il déblaya ainsi le terrain pour que l'église de Saint-Jacques puisse encore augmenter son prestige. C'était d'autant plus nécessaire qu'on se souvenait encore à Rome d'une défense expresse de conférer le pallium à l'église de Compostelle, puisqu'un de ses évêques avait autrefois dédaigné d'exécuter les décisions prises par un cardinal légat. Par compensation, Diego Gelmírez dut, en 1105, prêter un serment de fidélité au pape, dans lequel il reconnut formellement le pouvoir des légats apostoliques. On le lui demanda parce qu'autrefois, un évêque de Compostelle avait justifié son attitude de refus vis-à-vis de l'Église romaine en disant « Atuius ecclesiae cardinales et tantum obedientiae honorisque romanae ecclesiae cardinalibus exhibiant, quantum postea Romani cardinalis versa vice Romae exhibituri sunt. » Ce disant, il avait pris position contre les prétentions de Rome à la primauté universelle. De la bouche d'un évêque de Saint-Jacques de Compostelle, cette phrase avait un goût particulier puisqu'on y comptait aussi des cardinaux parmi les dignitaires, bien que seulement à titre honorifique. Les deux églises qui se réclamaient de l'apostolicité de leur siège avaient ainsi des institutions similaires. Maintenant que Diego Gelmírez avait reçu le pallium, il était quasiment devenu l'égal des archevêques de Tolède et de Braga, auxquels ce symbole d'un pouvoir juridictionnel avait été concédé lors de leur investiture par le pape. Les événements de 1105 n'avaient en aucune manière diminué les problèmes de Braga, qui, après l'exemption d'Iria Compostelle, avait déjà assez à faire pour ramener sous son autorité les restants évêchés suffragants de sa province ecclésiastique. De nouveau, une décision importante avait été prise, destinée à affaiblir le rayonnement religieux et spirituel de l'ancienne métropole de la Galice et de rehausser, dans une large mesure, la position de l'église de Saint-Jacques comme centre du culte d'un saint apôtre. Sous prétexte d'une visite amicale, l'évêque de Compostelle commit en 1102, en Pium Latrocinium, enlevant les plus précieuses reliques de l'église de Braga, c'est-à-dire les ossements de Saint Fructueux, archevêque de Braga au temps des Visigoths, ainsi que ceux des martyrs Cucufa, Sylvestre et Suzanne. Et tel furtum sacrum n'était pas une action exceptionnelle dans les querelles entre centres religieux pour rehausser leur propre valeur. Dans le cas présent, on avança, comme cela arrivait souvent, que les reliques étaient mal conservées et peu honorées. Mais comme dans la plupart des cas, bien d'autres intérêts étaient en jeu. L'action de Diego Gelmírez n'était pas simplement destinée à réclamer des territoires ou des droits par ailleurs difficiles à récupérer ou à conserver, mais surtout à affaiblir la position de la métropole de la Galice comme centre d'un culte local, lui enlevant pratiquement toute possibilité d'opposer quelque chose à peu près équivalent au culte de l'apôtre Saint Jacques à Compostelle. L'action de 1102 donna quasiment le signal pour le début d'une rivalité ouverte entre l'église de Saint-Jacques et la métropole de Braga. La concession du pallium faisant date, tout comme la réforme du chapitre cathédral de Saint-Jacques qui eut lieu environ vers le même temps. La réorganisation du chapitre et l'abandon de mauvais usages permirent à Diego Gelmírez de se profiler comme représentante de la réforme de l'Église et lui permit, grâce à l'augmentation des canonicats jusqu'au nombre de 72, conformément au nombre des disciples du Christ, juxta numeralem discipulorum domini collectionem, de s'attacher pas seulement quelques membres de sa propre famille, tels que son neveu, le prieur Pierre, mais aussi d'autres représentants de la noblesse de la Galice. Lors des grandes processions et des jours de fête, il apparut toujours entouré de tous les membres de son chapitre cathédral, ad insta Romanae Curiae, pour montrer au public combien la présence de ce collège éminent rehaussait son prestige. Et cela face à des gens plutôt difficiles à manier, comme on verra lors des révoltes urbaines. Après la réforme, les chanoines de la cathédrale continuaient à vivre selon une règle mixte, comportant des éléments de la règle de Saint-Augustin et de celle de Saint-Isidore. En ce qui concerne la distribution des offices au sein du chapitre, Diego Gelmírez s'orienta sur le modèle d'une organisation interne proposée en décembre 1100 par le Concile de Palencia, tenu par le cardinal légat Richard de Marsay et auquel il avait assisté comme élu. Une place spéciale y était réservée aux cardinaux de l'église de Compostelle. En 1102, l'évêque exigea même que les chanoines lui prêtassent un serment de fidélité pour lier ce groupe très important plus étroitement à sa personne et obtenir son soutien. Un soutien sans faille dont il avait besoin et qu'il cherchait à gagner par le partage de la manse entre l'évêque et le chapitre et une distribution équitable des prébendes pour éviter des futures querelles. Après cette consolidation interne, Diego Gelmírez avait donc depuis 1102 les mains libres pour chercher la confrontation avec Braga, qui n'avait pas réussi à renforcer sa propre position. Seul l'évêque Maurice de Coimbre, le futur successeur de l'archevêque Gérald, semble avoir reconnu les signes du temps. Dans les années suivantes, il se mit intensivement à la recherche de reliques pour augmenter considérablement le stock de son évêché et plus tard de son archevêché, et s'en servir après comme un contrepoids contre l'église de Saint-Jacques. Le plus spectaculaire de ces exploits était commis lors d'un pèlerinage en Terre Sainte. Il s'agit de l'enlèvement de la tête de Saint-Jacques, vénérée dans une petite chapelle pas loin de Jérusalem. Mais en raison de troubles de guerre, cette tête ne devait pas arriver à Braga. La reine Urraca en fit don à la cathédrale de Saint-Jacques, où on alla la rechercher solennellement en procession. Comme Maurice de Braga se laissait prendre plus tard au traquenard de la politique curiale et y échoua, après avoir été créé antipape sous le nom de Grégoire VIII, Diego Helmires pouvait tranquillement poursuivre sa politique ambitieuse en Castille-Léon. Déjà assez tôt, dans les premières années après son élection, il devient évident qu'il savait jouer de tous les instruments de la politique ecclésiastique mis à sa disposition pour faire respecter les droits de l'Église de Compostelle et renforcer peu à peu son statut d'Église apostolique selon les normes du droit canon. Pour arriver à ses fins, il se servit de privilèges pontificaux qui ne nous sont connus que grâce à leur transcription dans l'Historia Compostelana, ce qui rend leur authenticité, au moins dans certains cas, suspecte. Il se servit surtout du culte de l'apôtre Saint-Jacques et du culte des reliques, dont le rayonnement allait être diffusé bien au-delà de l'espace nord-ouest de l'Espagne, mettant aux yeux des croyants d'autres églises au second rang, ainsi que ses rapports intensifs avec la congrégation de Cluny et ses abbés, l'abbé Hugues de Cluny aussi bien que ses successeurs, qui lui apportaient pas seulement le soutien nécessaire de la papauté, mais l'aidait aussi à établir des liens politiques étroits avec la maison de Castille-Léon et les rois issus de la maison de Bourgogne. Ces relations avec la noblesse léonaise et galicienne avaient gagné une qualité nouvelle depuis la réforme du chapitre cathédral et la multiplication des canonicats. Exception faite de son attitude envers le pouvoir métropolitain de Braga, qui était une menace constante pour les ambitions de l'Église de Compostelle, l'évêque poursuivit partout une politique consensuelle pour intégrer les groupements sociaux et cléricaux autant que possible dans le cadre d'une politique ecclésiastique utile à ses desseins. Ce consensus fut remis en question après 1109, quand la mort du roi Alphonse VI, son héritier mâle, peu après celui de son gendre, le comte Raymond de Galice, plongea le royaume de Castille-Léon dans des troubles politiques imprévisibles. Ne restèrent en place que sa fille Urraca comme héritière de la couronne et son petit-fils Alphonse, qui était encore mineur. Le royaume risquait alors d'être absorbé par son voisin, le puissant royaume d'Aragon et son roi belliqueux, Alphonse Ier d'Aragon, dit le batailleur. Même le projet d'un mariage entre la princesse et son prétendant ambitieux s'avéra fatal. D'un part, ce projet constituait une menace pour les droits du prince héritier Alphonse, et d'autre part, le roi d'Aragon ne cessait de poursuivre ses propres objectifs ambitieux. Pas longtemps après, ce fut la rupture irrémédiable et tout le royaume devient alors un champ de bataille. Ce n'est pas le lieu ici de retracer en détail les désordres politiques de cette époque, mais on peut constater que l'évêque de Compostelle réussit à y jouer un rôle de premier rang. De concert avec la noblesse galicienne et lyonnaise, il prit le parti du prince héritier Alphonse Raimundis, dont les justes revendications semblaient menacées par les intrigues de sa mère, la reine Urraca, et de son beau-père, le roi d'Aragon. Quand Deogelmires couronna en 1111 le jeune prince roi de la Galice, il était pratiquement parvenu à un compromis avec le parti des partisans du prince, dirigé par le comte Pedro Froilas. Ce compromis fut pourtant bien précaire. Pour des raisons de politique ecclésiastique, Diego était bien obligé de s'arranger avec la reine Urraca, dont l'influence restait toujours déterminante jusqu'à ce que Alphonse VII fût couronné roi de Castille-Léon. Alphonse n'oubliera jamais que Diego Gelmírez l'ait soutenu dès le début. Il en fit son chancelier et l'aida autant que possible à réaliser ses projets. Mais revenons aux années troubles des débuts, où l'évêque de Compostelle fut obligé de s'arranger avec des circonstances peu stables, sans perdre de vue ses futurs projets. À Braga, il allait se heurter à un adversaire non négligeable en la personne de l'ancien évêque de Coimbre, Maurice, comme nous avons déjà vu en parlant des reliques. Avant que Maurice Bourdin n'allât se mettre lui-même hors de combat par une fausse estimation de la situation à Rome, il réussit mieux que son prédécesseur Gérald à réclamer pour Braga les droits métropolitains perdus et à convaincre Pascal II de les lui restituer, bien que son élection fût entachée d'irrégularité. Les documents en question nous sont uniquement connus grâce à des fragments de registres pontificaux, l'Historia Compostelana n'en soufflant mot. Elle nous transmet le privilège que Pascal II délivra en 1110 en faveur de Compostelle, avec une confirmation de ses droits et possessions. Manque par contre la lettre du pape dans laquelle il demande à l'église de Saint-Jacques de restituer à l'église de Braga tous les droits aliénés par elle depuis les temps du roi Garcia. Cette lettre nous est seulement connue parce qu'elle a été inscrite à peu près vers le même temps dans les registres pontificaux. Puis après, le siège de Braga tomba vacant par une période assez longue. Cette sédisvacance prolongée était due à l'absence de l'évêque Maurice, qui s'était d'abord rendu à Rome pour y déposer une plainte, avait ensuite été excommunié en raison de son usurpation des droits de l'église de Léon, avait alors fait un pèlerinage et se retrouva en fin de compte élu pape. Pendant cette période, Diego Gelmírez se tourna de son côté vers Cluny pour reprendre sa politique d'alliance avec l'abbé Bourguignon et demanda au successeur duc, l'abbé Ponce de Melgueil, de se prévaloir de son influence sur la papauté. En plus, il essaya d'instrumentaliser les synodes et les confraternités pour ses fins. Bien que les synodes ne puissent pas lui offrir une base assez stable pour atteindre ses objectifs, en raison des pouvoirs assez étendus de l'archevêque Bernard de Tolède comme légat apostolique permanent, elle lui offrait pourtant la meilleure plateforme pour imposer un changement de structure dans l'organisation des évêchés suffragants. Ici, les objectifs même de Diego étaient en jeu. Il devient de plus en plus clair que l'évêque de Compostelle, de par l'installation de ses hommes de confiance sur les sièges des évêchés de la province ecclésiastique de Braga, avait l'intention de préparer le terrain pour faire transférer le pouvoir métropolitain des archevêques de Braga à son siège. Pour cela, il était indispensable que la papauté donne son approbation, que Bernard de Tolède comme primat de l'Espagne le tolère et que c'était là le point le plus important et face à une condition politique très instable, le plus délicat, que la royauté et la noblesse se sentent profondément liées à l'église de Saint-Jacques. Mais la réalisation de ce projet allait se heurter à quantité d'obstacles. Alphonse VI venait juste de mourir lors qu'une partie de la noblesse de la Galice forma en 1109 à Léon une association jurée, une hermandat, par sauvegarder les droits de l'enfant mineur Alphonse, destiné un jour à monter sur le trône de la Castille. Pour cela, ils avaient juré un serment dans les mains de Diego Gelmírez, qui deviendra ensuite le défenseur le plus déterminé des droits du jeune prince. En 1114, l'évêque de Compostelle et tout le clergé de la Galice, avec lui, s'abstient d'assister à un concile à Léon, bien qu'il fût spécialement invité par l'archevêque de Tolède. Don Diego promulgua pourtant les décisions y prises à la fin de l'année en présence de tous les évêques de la Galice au cours d'un synode qu'il avait convoqué à Saint-Jacques-de-Compostelle. Une confraternité, une hermandat, y fut établie par tous, avec promesse de s'aider mutuellement, de faire adopter toutes les mesures traitées et de se rencontrer régulièrement chaque année vers le milieu du carême à Compostelle. Ainsi, le concept d'une province ecclésiastique de Compostelle, présidée par l'évêque de Saint-Jacques, revendiquant pour lui le droit de consacrer chaque évêque nouvellement élu, avait été énoncé clairement par un synode à caractère de concile provincial, un résultat qui fut communiqué aux autres évêques, leur demandant en même temps de se joindre à la confraternité. En rapportant ces événements, l'Historia Compostelana établit un lien avec une lettre du pape Pascal II, dans laquelle celui-ci s'était plutôt gardé de répondre directement et s'était contenté de rappeler de manière générale que la paix devait être gardée. Ce fut seulement le cardinal Diacre et chancelier Jean de Gaët qui, dans une lettre également citée par l'Historia Compostelana, entra dans les détails des desiderata de l'église de Compostelle en établissant un lien avec le transfert de la dignité métropolitaine de Mérida, dont le siège n'était pas encore restauré. Ce qu'on peut constater, c'est que l'Assemblée des évêques galiciens, pour la plupart des partisans de Diego Gelmírez, sous la présidence de l'évêque de Compostelle, était maintenant fermement établie. Bernard de Tolède était apparemment d'accord avec ce développement, même s'il ne parla pas, comme l'Historia Compostelana, d'un transfert des droits du siège vacant de Mérida, préjudiciable aux droits primatiaux de Tolède. Quand Diego Gelmírez, après l'échec de Maurice Bourdin, tenta d'obtenir le pouvoir métropolitain de Braga des mains du pape Gélas II, l'ancien chancelier Jean de Gaët, il n'y réussit point. Mais bientôt allait s'annoncer un changement favorable à Diego, qui lui permit de jouer de nouveau la carte de la Bourgogne. Au moment de la constitution de la Hermandat de 1109, l'archevêque Guy de Vienne, de la maison comtale de Bourgogne, était présent comme oncle, patrus, du jeune Alphonse Raimundes. Guy, qui était aussi apparenté à l'abbé Hugues de Cluny, entretient des relations étroites avec Diego Gelmírez. Sous ces conditions, il n'est pas étonnant que l'Historia Compostelana raconte en détail l'élection de Guy de Vienne, qui prendra le nom de Calixte II. Elle ne passe même pas sous silence l'existence probable d'un autre candidat, l'abbé Ponce de Cluny, mais sans évoquer le danger d'un schisme. Tant d'espoirs conçus devaient aboutir à un succès. Après quelques détours diplomatiques, Calixte II éleva en 1120 l'église de Compostelle au rang de l'église métropolitaine à la place de l'église lusitanienne de Mérida, et cela sur la demande de l'abbé de Cluny, de l'évêque de Porto, ainsi qu'une multitude de cardinaux et de nobles bourguignons. Les négociations préalables s'avéraient certainement difficiles, le pape ayant avant tout l'intention de renforcer l'élément monastique dans l'Église, surtout l'influence des grandes congrégations bénédictines de Cluny et de Saint-Victor de Marseille, et de réduire en même temps le pouvoir redoutable des grandes métropoles et des sièges primatiales. Ces conceptions de politique ecclésiastique du pape étaient en ce point conformes à celles de son futur évêque métropolitain de Mérida-Compostelle. Dans son grand privilège, Calixte ne lui conféra pas le titre d'archiépiscopos, mais le nomma légat permanent pour les provinces ecclésiastiques de Mérida et Braga, pour réduire le rayon d'action de Bernard de Tolède et mieux délimiter les différentes sphères d'influence. Pour ne pas donner trop de poids à la nouvelle métropole, le privilège de 1120 n'avait rehaussé le rang de Compostelle qu'à titre provisoire, en fait que l'Historia Compostelana semble ignorer. Et seulement Coimbra et Salamanque, jusqu'à cette date des vastes pouvoirs de l'archevêque de Tolède, y figurent comme ses nouveaux suffragants. Il fallait des troubles politiques et ecclésiastiques sans fin, la venue de différents cardinaux légats à Latre et différents ambassades de l'église de Compostelle à Rome, souvent suspectés de distribuer des pots de vin, pour que Diego Helmires arrivât à ses fins. Vers le milieu de l'année 1124, son évêché fut élevé définitivement au rang d'une métropole dans la succession de Mérida, dont les suffragants formèrent désormais part de sa province ecclésiastique. Mais il dut accepter l'existence et l'indépendance de la province ecclésiastique de Braga et le fait que ses propres suffragants se trouvaient assez loin de son siège, que sa propre province ecclésiastique n'était en conséquence pas unie et sera plus tard éparpillée sur deux royaumes, celui de Léon et celui du Portugal, des conditions qui devaient donner naissance à des querelles interminables avec Braga et Tolède. Dans un discours fictif, que l'Historia Compostelana place en 1113, Diego Helmires reprouva le mariage entre la reine Urraca et Alphonse Ier d'Aragon pour des raisons de consanguinité. Il dit qu'ils étaient contribules et consanguinitatis linea affines, et que leur intention de reprendre, après une rupture, cet illicitum connubium était à condamner. Il s'y référa aux évêques et aux apôtres, auxquels Dieu, selon Matthieu 18,18, avait confié les saints sacrements et conféré le pouvoir de lier et de délier, et de par cette potestas la cure d'âme et le pouvoir disciplinaire. À eux, c'est-à-dire aux évêques et apôtres, aux specialiores et precordialiores filii Dei, Dieu a confié l'Église son épouse. Nobis regis terrarum duces principes omnisque populus renatus subjugatus est, omniumque curam gerimus. Impossible d'énoncer plus clairement l'idée que l'évêque de l'Église apostolique de Compostelle se faisait de sa fonction et de ses pouvoirs, et c'est l'auteur de l'Historia Compostelana qui parle ici, c'est l'auteur de cette partie de l'Historia Compostelana qui parle ici. C'est l'apostolicité de son siège qui, aux yeux de Dieu Helmires, donna droit à son Église à aspirer à la plus haute dignité au sein de la chrétienté, et pas seulement en Espagne. Pour arriver à ses fins, après des débuts incertains, il agit toujours conformément aux conditions politiques et ecclésiastiques en vigueur pour éviter de courir les mêmes risques qui devaient causer la ruine du siège concurrent de Braga. D'abord, il réclama pour l'Église de Compostelle la libertas ecclesiae, cette revendication bien connue du mouvement pour la réforme de l'Église, la liberté de toute ingérence de la part des laïcs. Puis, il obtient la promotion de l'Église de Compostelle jusqu'au rang de métropole, toujours en étroite collaboration avec la congrégation de Cluny et ses abbés de Saint-Hugues à Pierre le Vénérable, qui entretenaient presque toujours d'excellents contacts avec la papauté. En plus, il avait l'intention d'introduire les consuetudines ecclesiarum franciae dans l'église de Saint-Jacques. Pour la plus grande gloire de cette église, il ne se servit pas seulement du culte des reliques et des saintes, du culte de l'apôtre Saint-Jacques et du rapt de reliques, mais surtout du bois séculier, représenté par la famille comtale de Bourgogne et la dynastie castillane d'origine bourguignonne. C'est pourquoi il fut impliqué dans quantité d'intrigues politiques, parfois assez graves, mais obtint aussi d'autres parts sous le pontificat de Calixte II, l'érection définitive de son église en métropole en 1124 pour devenir ainsi l'égal de Tolède. Ses objectifs, il les poursuivit déjà au moment où il reçut le pallium. Il annonça alors que partout où reposa le corps d'un apôtre, aut papatus, aut patriarchatus, aut adminus archiepiscopatus erat. Seule l'église de Saint-Jacques faisait encore exception, bien que l'apôtre Jacques fût comme des apôtres Pierre et Jean, un des disciples favoris du Christ. Quand Diego Chelmires, lors de l'imposition du pallium, exigea aussi l'élévation de son siège au rang d'un archevêché, le pape lui demanda de patienter en disant « Dignum namque est ut ecclesia beati Jacobi archiepiscopatu aut etiam maiori dignitate decoretur ». Cette dignité, encore plus élevée, ne pouvait être que celle d'un patriarcat impliquant depuis l'Antiquité tardive la position primatiale. L'élévation de l'église de Saint-Jacques au rang de métropole ne fut donc rien qu'un premier pas, le véritable but étant la primatie sur les églises de l'Hispania, comme l'Historia Compostelana le formula clairement. Le privilegium honoris dans l'église occidentale revient de droit à l'église de Compostelle, comme l'église romaine en raison de son apostolicité à la primauté, à la primauté sur toutes les autres églises. Ainsi, l'église de Compostelle, en raison de la présence de son apôtre, doit avoir la primauté sur les églises occidentales, c'est-à-dire sur les églises de la péninsule ibérique. Jusqu'à sa mort, Bernard de Tolède usa toute son influence pour s'opposer à une telle prétention. Les troubles au sein de l'Église jusqu'à l'avènement du schisme d'Anaclète et les tentatives d'Innocent II de consolider son pontificat, ainsi qu'un complot des chanoines de son propre chapitre de le faire déposer, ne laissaient plus assez le temps à Diogelmires pour réaliser d'autres objectifs. Merci bien.
Bueno, ha aparecido Gelmírez, por fin, y su carrera eclesiástica como obispo de Santiago. Abrimos ahora un turno de intervenciones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, el profesor Fones, si le hablamos lentamente, entiende bien el español, aunque nos conteste en francés. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. En ese caso aprovecho yo la oportunidad para preguntarle sobre las benedicciones que la Iglesia Gelmírez envía a Roma periódicamente. Sí. Me parece que en la historia compostelana hay un rasgo característico, y es que el primer autor, la primera parte, se habla de embajadas a Roma, pero nunca se menciona el pago de benedicciones. Quien empieza a hablar del pago de benedicciones sería quizá este segundo autor, en la parte de Giraldo. Él sí las menciona. Y mi pregunta es, ¿se podría hablar de alguna forma, de algún tipo de incipiente fiscalidad pontificia? ¿O es demasiado pronto para hablar de este concepto?
Ah, oui, je pense que oui, la fiscalité pontificale était très augmentée à cette époque, mais je pense aussi que l'église de Compostelle devenait plus riche qu'autrefois et qu'elle avait le dinero, also l'argent, pour payer la curie et les membres de la curie.
Manuel.
Mi pregunta es sobre el periodo 1096-1100, sobre esos cuatro años. ¿Por qué se tarda tanto en decidir que Gelmírez es el candidato? ¿Hay un problema de edad? Hay un problema, evidentemente, de dignidad eclesiástica, porque si todavía no era subdiácono ni presbítero, quizás no podía ser nombrado obispo. ¿Qué sucede en esos cuatro años? ¿Por qué son tan largos esos cuatro años? Tuvieron que ser muy largos para la Iglesia compostelana, después de Dalmacio y todos estos privilegios que se consiguen en el momento de Dalmacio. La amenaza de Diego Peláez parece siempre más algo irreal que real, pero me gustaría que ahondase un poco más en esos cuatro años. ¿Por qué?
Je pense qu'on ne sait rien de définitif. mais je pense que l'élection de Dalmas, c'est l'influence de Cluny, et que Diego Helmírez n'était pas assez loin pour prendre l'évêché, et que quelques mois ou quelques ans plus tard, il avait reçu les moyens nécessaires pour être pontife et pour être évêque.
Yo me quedo todavía con una duda y quisiera conocer su opinión sobre quién pudo haber sido ese obispo de Santiago del que la Compostelana dice que le había causado esa afrenta al cardenal, al legado pontificio. ¿En qué momento? Porque nunca...
L'histoire compostelana ne donne pas le nom de ce candidat, mais je pense que c'est Pedro de Cardenia.
Pedro de Cardenia.
Je pense que c'est Pedro de Cardenia. Mais on ne peut pas indiquer ça. Il n'y a pas de preuve.
Non, Diego Peláez.
Non, je ne pense pas. Mais on n'a pas de preuves, ni pour l'un ni pour l'autre.
Bueno, si no hay ninguna pregunta más, le agradecemos mucho su conferencia, su ponencia que nos ha presentado por fin al personaje que dirige la diócesis de Santiago y sobre el cual estamos analizando su signo. Muchas gracias.
Muchas gracias.